le magazine des Nations Unies.
Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Et d'abord les principaux titres de cette édition. C'est un rapport de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Plus de 17 500 enfants sortis des forces et groupes armés en RDC depuis 2017. Le représentant de cette agence de l'ONU l'a affirmé devant la presse mercredi 23 mars à Kinshasa. Près de 10 000 de ces enfants ont bénéficié de programmes de réintégration dans leur famille et communauté. Vous suivrez dans ce magazine Edouard Begbeder, le représentant de l'UNICEF. Et face à face, Bintou Keïta, femme leader de la République démocratique du Congo. Comment améliorer le leadership féminin en RDC? C'est autour de ce thème qu'une cinquantaine de femmes leaders politiques, des médias et d'opinion se sont exprimées et ont dégagé les vertus dont devraient faire preuve les femmes leaders. Un exercice initié par la chef de la MONUSCO en perspective des échéances électorales de 2023. Enfin, discours de haine au Congo démocratique. Le phénomène se ravive et menace dangereusement la paix et la cohésion sociale. D'où cet appel pressant de la représentante spéciale Bintou Keïta aux autorités congolaises pour notamment actionner le régime répressif contre les auteurs de ces discours, y compris ceux vivant à l'extérieur du pays. La patronne de la MONUSCO s'est exprimée jeudi dernier à l'occasion de la présentation du rapport final de l'atelier sur les stratégies de lutte contre les discours de haine en République démocratique du Congo. C'est donc là la charpente de cette émission, le développement dans quelques instants.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, un bonjour et bon dimanche. Plus de 17 500 enfants sortis des forces et groupes armés ont été assistés depuis 2017 en République démocratique du Congo dans le cadre du programme de sortie et de réintégration de cette catégorie d'enfants. C'est ce qu'a affirmé le représentant de l'UNICEF en RDC, Edouard Begbeder, était l'un des invités spéciaux de la conférence de presse des Nations Unies mercredi dernier à Kinshasa. Suivez ici un extrait des propos du représentant de l'UNICEF, recueilli par Honoré Missinga Kalala.
Au sujet du processus de sortie et de réintégration des enfants associés aux forces et groupes armés, on vient de mentionner ici plusieurs exemples d'enfants qui étaient au sein de ADF ou d'autres mouvements et qui ont été maintenant libérés. Depuis 2017, il y a plus de 17 500 enfants qui sont sortis des groupes armés et qui ont été assistés. Ça, ce sont les cas qui sont connus, documentés, sur lesquels l'UNICEF et d'autres partenaires ont travaillé. Sur ces 17 000, près de 10 000 enfants ont bénéficié de programmes de réintégration individuelle et ou collective dans leurs familles et communautés. Lorsqu'on regarde l'année 2021, l'année dernière, plus de 3 300 enfants ont été séparés et pris en charge dû à ces différents conflits.
Bravoure, détermination, innovation, sens d'écoute, considération des autres et solidarité, telles devraient être les vertus caractéristiques des femmes leaders en République démocratique du Congo, notamment celles qui ont ou qui aspirent à embrasser la carrière politique. C'est ce qu'on retiendra des échanges qu'a eu mardi 22 mars à Kinshasa, la représentante spéciale et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, avec une cinquantaine de femmes leaders d'opinion, politique et des médias. Reportage, Honoré Missinga Kalala.
Plus de deux heures d'échanges, cadre choisi, la salle Town Hall du texte 2, deuxième quartier général de la MONUSCO à Kinshasa. Améliorer le leadership féminin en RDC, c'est le thème du jour. Pour Bintou Keïta, cette rencontre est une suite d'un programme commencé en novembre 2021 en prévision des échéances électorales de décembre 2023. La chef de la MONUSCO recadre cependant les choses.
La politique, c'est pas simplement les élections. C'est au quotidien comment est-ce qu'on fait la politique de la cité, la politique dans son village, la politique dans sa commune, la politique dans les différents domaines de la vie au quotidien.
Parmi les qualités d'une femme leader mise en évidence au cours du débat, la responsabilité. Selon l'une des invitées de marque, Marie-Josée Ikofo, pas de doute, toutes les femmes naissent avec.
La femme en Afrique, et particulièrement ici au Congo, elle est responsable de bas âge par rapport aux jeunes garçons. on voit que c'est la jeune fille qu'on a tendance à envoyer, c'est la jeune fille qu'on a tendance à demander de prendre soin des siens, de ses frères et sœurs. Donc dès le bas âge, la jeune fille est déjà responsable. Tout ce qui lui reste à faire, c'est qu'en grandissant, c'est travailler sur ses compétences, renforcer ses capacités.
La candidate malheureuse à la présidentielle de 2018 relève quand même ce qu'elle considère comme la plus grande faiblesse des femmes.
Mais ce que j'ai constaté chez nous les femmes aussi, c'est ce manque d'unité et de solidarité.
Journaliste de profession, Chantal Kanimbo, l'autre invitée de marque, insiste quant à elle sur les atouts des femmes.
On a des atouts extraordinaires naturellement. On a tellement de qualités qu'en fait, améliorer le leadership féminin, c'est juste travailler sur les dispositions naturelles qui se trouvent dans la femme pour pouvoir l'aider à assurer son leadership.
À la fin du débat, un vœu général se dégage de cette rencontre. Organiser ce genre d'échanges et les élargir à d'autres catégories de femmes leaders de la RDC.
Je l'ai dit dans le sommaire, le phénomène du discours de haine s'est aggravé en RDC dans un contexte d'une relative impunité, selon la représentante spéciale du secrétaire général. Bintou Keïta s'est exprimé ainsi mercredi 24 mars à l'occasion de la présentation à Kinshasa du rapport final de l'atelier sur les stratégies de lutte contre les discours de haine tenu en septembre 2021. Le dit atelier a été organisé conjointement par l'UNESCO, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, la MONUSCO et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Honoré Missinga Kalala pour d'autres détails du message de Bintou Keïta.
La situation en RDC est préoccupante en ce qui concerne la dynamique liée au discours de haine, a fait observer Bintou Keïta, commentant le rapport dont la synthèse a été présentée par le représentant de l'UNESCO en RD Congo. Pour la chef de la MONUSCO, la situation est d'autant plus inquiétante que le phénomène se passe dans un contexte d'impunité générale.
La tolérance et l'absence de suivi de la loi pour les sanctions qui devraient être prises nous mettent dans un environnement très difficile.
Tous les médiums y contribuent et sont largement utilisés, réseaux sociaux, médias en ligne et médias classiques, avec souvent des conséquences désastreuses, a-t-elle constaté.
Et là, on se rend compte que ça continue de croître et que cela a des conséquences très néfastes sur la sécurité, l'intégrité physique et voire, assez souvent, même la vie des Congolais.
Bintou Keïta a aussi apostrophé ces Congolais de la diaspora qui contribuent largement au phénomène, d'où son appel à la répression.
C'est le lieu pour moi d'inviter les autorités congolaises à poursuivre les efforts pour lutter contre l'impunité de tels actes en traduisant les auteurs devant les juridictions appropriées, qu'ils se trouvent ou non sur le territoire congolais.
La territoriale des originaires est également épinglée dans ce rapport comme l'une des principales causes du discours de haine en République démocratique du Congo.
Changeons de chapitre pour parler environnement et conservation de la nature, faire de la réserve de biosphère de Yangambi un pôle d'excellence climat-diversité et avec l'aide de l'UNESCO, tel a été l'objectif d'une réunion hybride d'information et de concertation tenue à Kinshasa du 21 au 22 mars 2022. Ce forum a été organisé sous le haut patronage du ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable. D'autres précisions sur cette réunion dans ce reportage de Jeff Opela.
En conformité avec ces échanges, ce projet a été développé par l'UNESCO et un consortium de partenaires parmi lesquels l'INERA, la direction de MAB et RAIF, qui est d'ailleurs un centre de catégorie 2 de l'UNESCO et l'Université des Gangs de la Belgique. L'objectif principal poursuivi dans ces projets est de contribuer au renforcement du rôle de la réserve de biosphère de Yangambi en tant que site modèle d'observation pour le développement durable. Monsieur José Mbenga Masela, administrateur du territoire d'Isangi, en décrit l'importance.
Aujourd'hui, Yangambi est devenu un site incontournable par où passent toutes les recherches. Vous savez qu'avec l'implantation de ce qu'on appelle aujourd'hui la tour à flux, personnellement j'ai été là comme le numéro 1 du territoire de Sang, de l'entité dans laquelle se trouve cet instrument important. J'ai été personnellement le jour où cette tour a été inaugurée. Cette tour à flux est un instrument indispensable qui va nous permettre de mesurer la quantité de carbone séquestré par notre forêt. Cet atelier, c'était juste pour voir dans quelle mesure transformer cette réserve de biosphère de Yangambi en un pôle scientifique. d'excellence sur le climat et la biodiversité.
Il faut retenir que ce projet s'attachera par ailleurs à améliorer la situation climatique ainsi qu'à promouvoir les économies vertes en appui aux populations. Cet atelier a pu identifier les synergies d'action à mettre en œuvre. Toutes les parties prenantes sur ces projets en étaient informées. La cartographie a été définie ainsi que le rôle que les institutions nationales et les organisations d'appui déjà présentes et actives à Yangambi. Quelques recommandations quant à ces.
La notion et les principes de la réserve de biosphère doivent être bien compris par les autorités locales, les communautés locales et toutes les parties prenantes.
L'UNESCO n'a pas caché sa satisfaction et remercie ses partenaires.
Je voudrais aussi remercier l'INERA et le service MAB pour les présentations que vous avez faites et pour vos contributions dans le cadre de cet atelier. Comme on l'a dit, depuis l'INERA et le comité MAB, c'est pour nous des partenaires non seulement incontournables, mais je dirais des partenaires naturels. On ne peut pas avancer en tant qu'UNESCO à Yangambi sans vous avoir avec nous.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Une délégation d'experts internationaux avait effectué du 1er au 15 mars 2022 une visite officielle en RDC dans le cadre du mécanisme de la mise en marche de la justice transitionnelle. Monsieur Bakre Wale Ndiaye, chef de la délégation, avait tiré des leçons à la fin de cette mission, notamment celle relative à la nécessité de briser le cycle de violations des droits de l'homme commises et des conflits communautaires, souvent causés selon lui par l'exploitation et des disputes autour des ressources naturel. Monsieur Bakre Wale Ndiaye s'était entretenu avec Honoré Missinga Kalala.
Monsieur Bakre Wale Ndiaye, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez en mission de travail ici en RDC. Quel en était l'objectif?
Nous sommes venus ici dans le cadre du mandat qui a été élargi au mois d'octobre dernier à l'ensemble de la République démocratique du Congo, qui a été donné par le Conseil des droits de l'homme pour nous permettre d'assister la République démocratique du Congo et d'évaluer ses efforts dans deux directions, la lutte contre l'impunité et la mise en place d'une justice de transition. Nous avions commencé par le Kasaï, mais maintenant que c'est élargi à l'ensemble du Congo, nous avons commencé cette visite en nous rendant presque directement le 1er mars à Kalemi pour assister le 2 mars au lancement des consultations nationales qui vont être entreprises dans l'ensemble du territoire congolais pour que la population soit consultée sur quelle direction prendre sur la route de la réconciliation et de la réparation du tort des victimes et aussi de la poursuite des crimes abominables qui ont pu être commis. Ensuite, nous nous sommes rendus à Bounia, dans l'Ituri, pour voir un peu comment, dans une province en état de siège, ces mêmes préoccupations pouvait être tenu en compte. Voilà en gros ce qui s'est passé la première semaine de notre mission et la deuxième semaine nous l'avons consacrée à rencontrer des autorités aussi bien gouvernementales, non gouvernementales que diplomatiques ici à Kinshasa.
Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ces rencontres avec ces différentes personnalités au niveau du gouvernement, au niveau de la société civile et même au niveau des agences du système des Nations Unies? C'était ça votre agenda?
Tout à fait, et aussi des personnalités religieuses, des ONG. Et ce que nous avons pu retenir, c'est que il est absolument indispensable de briser le cercle des violations des droits de l'homme qui se passent et des conflits entre les communautés et souvent issus de l'exploitation des richesses naturelles ou des compétitions sur ces mêmes ressources, que ce soit la terre ou des minerais. Nous avons vu aussi que, quelle que soit la situation, il y avait un fort désir de faire des efforts sur l'un ou l'autre aspect de la justice de transition, puisque la justice de transition, c'est aussi se tolérer, se comprendre, dialoguer, réinsérer les combattants, c'est aussi prendre en compte le sort des victimes. Or, s'il y a des vieux conflits qui sont latents, qui sont réels, qui sont brûlants, cela n'empêche pas que des efforts sont possibles pour s'occuper de l'urgence, et notamment des victimes et de l'effort de réconciliation.
Revenons un peu à la première semaine de votre visite. Vous étiez à Kalemi, vous étiez en Ituri, à Bounia notamment. Qu'est-ce que vous avez pu retenir d'essentiel, des messages que vos différents interlocuteurs ont pu faire passer?
Ce qu'il y a à Kalemi, nous sommes rendus compte évidemment que le conflit entre Bantou et Twa, notamment, était un conflit extrêmement difficile, parce que profond, et parfois remontant à des préjugés de notre millénaire, je ne parle même pas de notre siècle. Et que donc, ce n'est pas facile de l'éradiquer en deux jours, mais la volonté d'y parvenir est absolument importante, et toute marche commence par un premier pas. Et c'est l'occasion de saluer la décision du ministre des Droits humains, qui, après avoir écouté les communautés, a décidé d'inclure dans la délégation congolaise qui va se rendre le 28 mars au dialogue organisé par le Conseil des droits de l'homme sur la République démocratique du Congo. Il a donc décidé d'inclure une jeune étudiante, toi, de nom de Anastasie Ngoy, si j'ai bonne mémoire, et qui va donc être membre de cette délégation pour, en quelque sorte, manifester le désir d'inclusion du gouvernement. Si on en vient à l'Ituri, nous avons ce même conflit entre essentiellement les communautés Hema et Lendu, mais ce ne sont pas les seules communautés. Donc, quelque part, là aussi, il y a une forte tension, si l'on veut, chacun étant à la fois victime et auteur, ne retient en fait que la victimisation et pas sa qualité d'auteur. Et il faudrait donc trouver les moyens d'engager un dialogue entre ces communautés. Et souvent, nous avons pensé que les confessions religieuses pouvaient jouer un rôle dans cela, et que ce soit les différentes églises chrétiennes, comme les autres religions, comme l'islam ou les religions traditionnelles. Donc, nous avons vu aussi que dans toutes ces communautés, le fait de parler aux leaders et de convaincre les leaders était clé pour établir la confiance entre les communautés et acquérir la confiance des communautés.
Oui, vous avez écouté vos interlocuteurs, mais vous aussi, vous étiez porteur des messages. Quel a été le message des Nations Unies?
Le message des Nations Unies, c'est de dire tout simplement, prendre en compte la volonté de la République démocratique du Congo d'avancer résolument dans la direction de la justice de transition, d'avancer résolument vers l'état de droit, et de considérer que les difficultés que ce pays connaît depuis très longtemps et qui se limitent pas aux frontières du pays, mais qui s'étend aussi dans des zones transfrontalières et dans des pays frontaliers bien connus, que ces difficultés-là ne sont pas irréversibles.
Monsieur Bakréo Wali Ndiaye, merci.
Nos nouvelles en plus bref, parlons d'abord protection des enfants. Du 18 au 21 mars dernier, plusieurs sections substantives de la MONUSCO Goma ont effectué une mission de terrain à Kichanga, au cours de laquelle deux ateliers de formation ont été organisés sur la problématique de la protection des enfants dans les conflits armés. La première session s'est déroulée au profit de 20 participants venus de FARDC, de la PNC et de l'ANR, tandis que la deuxième a bénéficié à des autres représentantes d'organisations féminines. Les sections protection de l'enfant, UNPOL, affaires civiles, conduite et discipline ainsi que genre ont pris part à cette mission. Autre nouvelle, le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a fermement condamné l'attaque survenue le 19 mars dernier dans le village de Gouda, dans la province de l'Ituri. Au moins 12 personnes ont péri dans cette attaque, au cours de laquelle les auteurs munis de machettes ont aussi mis le feu à plusieurs maisons de ce village et volé du bétail. Les victimes, parmi lesquelles des femmes et des enfants, faisaient partie d'une vague de personnes récemment retournées à Gouda après avoir été déplacées à plusieurs reprises. Enfin, le tout nouveau représentant spécial adjoint du secrétaire général et coordonnateur résident et humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis, était en visite depuis le 18 mars 2022 dans les provinces du Nord-Kivu, de l'Ituri et du Tanganyika. Cette visite, la première, était plus une visite de prise de contact avec les acteurs du développement et ceux du secteur humanitaire opérationnel dans ces trois provinces de la RDC.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le Mac Yuan revient sur l'entretien que la coordinatrice Sukasai du bureau de terrain du coordonnateur humanitaire en RDC a accordé en début de semaine à Radio Kapi. Notre invitée, c'est donc Stella Roman. Elle évalue dans cet entretien le Nexus, cette approche mise en marche dans la région après le départ de la MONUSCO l'année dernière. Stella Roman répond aux questions de François Kadima.
Stella Roman, bonjour.
Bonjour.
L'approche Nexus a été envisagée suite à l'amélioration de la situation sécuritaire après les élections et le départ de la MONUSCO. Alors, quelle évaluation faites-vous de l'approche Nexus à ces jours dans la région du Kasaï?
Effectivement, le Nexus en est en plein mise en opérationnalisation en ces jours. Comme vous venez de le dire, en principe, l'approche Nexus a été décidée pour la RDC dans l'année 2019 et ça a été suivi par plusieurs ateliers sur le niveau national avant qu'on a décidé de prioriser 3 provinces en RDC pour l'opérationnalisation justement du Nexus. Et parmi ces provinces, c'est le Kasaï central et le Kasaï. Donc ça, c'est la raison pour laquelle, effectivement, je suis venue ici pour appuyer cet exercice. On est vraiment au plein milieu de la mise en œuvre. On a déjà tenu un grand atelier pour initier le processus l'année passée, en avril. Ça s'est tenu ici à Kananga avec la grande participation de différents participants qui sont venus de tous les côtés du pays et surtout de Kinshasa. Et après, on a commencé de concrétiser l'approche Nexus ici au Kasaï central. On a commencé avec la première réunion, c'est ce qu'on appelle le NGP, le Nexus Group Provincial, qui est précédé par le gouverneur de la province. Et jusqu'à ces moments, on a eu 3 réunions de haut niveau. Donc voilà, je peux vraiment dire qu'on n'a pas tardé de le mettre en œuvre. Le Nexus, c'est une approche que demande la participation de plusieurs acteurs. C'est beaucoup de coordination qu'on fait ensemble et donc je pense qu'on est vraiment sur un très bon point actuellement.
Voilà, prenons donc les 3 aspects de Nexus, l'humanitaire, la paix, le développement. Qu'est-ce qui a déjà été fait dans la région?
Voilà, c'est très bien que vous mentionnez les 3 aspects clés du Nexus, parce qu'on s'y réfère aussi très souvent triple Nexus. Donc voilà les 3 aspects que vous venez de mentionner. Au fait, parfois des difficultés de vraiment comprendre c'est quoi le Nexus, parce que le Nexus n'est pas un projet, c'est pas un programme et c'est pas un fonds non plus, c'est pas une façon de financer, mais c'est plutôt une nouvelle façon d'approcher les choses, une nouvelle façon de coordonner, de mieux coordonner tous ensemble. Et le but au fait du Nexus, c'est que il fallait, c'est une reconnaissance universelle qu'il faut diminuer les aides humanitaires pour ensemble avancer dans le développement en prenant en considération cause profonde des conflits, c'est-à-dire la paix. Je pense en ça, on voit maintenant de la part des Nations Unies, par exemple, les agences qui sont bien fonctionnelles sur le niveau et de Kasaï et du Kasaï central. Donc ça, c'est déjà un bon indicateur.
Qui sont réellement les acteurs des mises en œuvre du Nexus?
Au fait, il y a 5 acteurs clés. C'est le gouvernement. Après, il y a les Nations Unies, il y a les ONGI, les grandes organisations non gouvernementales internationales, il y a la société civile, très important, locale, parce qu'au fait, le Nexus peut jamais fonctionner si c'est pas aussi approprié par les acteurs qui sont à côté, qui accompagnent les bénéficiaires dans les territoires. Dernier acteur très important sont les bailleurs.
Qu'est-ce qui reste à faire pour booster l'approche Nexus?
En principe, je pense qu'on n'est qu'au début. Il faut vraiment nous assurer que toute cette coordination, tout ce travail qu'on a maintenant porté à Kananga va aussi descendre jusqu'au niveau des territoires. Donc, c'est-à-dire, maintenant, ça, ce qu'il nous faut, c'est de concrétiser, faire des descentes aussi sur le terrain, mais aussi de ici nous asseoir autour de cette table que je viens de dire pour comprendre quelle intervention existe déjà. Qu'est-ce qui a été fait déjà ici dans la province pour comprendre quels sont encore les besoins qui restent à être couverts.
Sheila Romain, nous vous disons merci.
Rendons-nous cette fois au sud Kivu avec cette bonne nouvelle. La reprise du trafic sur la nationale numéro 5 au niveau de la rivière Sangué dans la plaine de la Ruzizi, territoire d'Ouvira. C'était mercredi dernier que cette route a été rouverte à cet endroit. Cela à la suite des travaux communautaires effectués par les jeunes de la place et la MONUSCO après la destruction d'une grande partie du pont emporté par les eaux de pluie. Les jeunes de la commune rurale de Sangué, les transporteurs et les autorités civiles locales se sont mobilisés avec le soutien soutien de casques bleus pakistanais de la mission onusienne en vue de rétablir vite la circulation. Fiston Goma.
C'est dans une ambiance de cohésion que ces travaux ont été vite faits. On pouvait observer les jeunes se mobiliser aux côtés des casques bleus de la MONUSCO pour remplir les fossés d'effondrement devant les ponts sur la rivière Sangue. Pendant 2 jours de pluie diluvienne, ont provoqué une crue de la rivière Sangue empêchant la traversée des rivières d'un bout à l'autre de la route. Mercredi, un camion a tenté de forcer le passage lorsqu'il s'est embourbé dans la rivière, bloquant même les véhicules équipés de traction de traverser. Pendant 6 heures, les activités socio-économiques ont été paralysées sur l'axe Sangue-Bukavu et Sangue-Uvira. Aucune patrouille des casques bleus de la MONUSCO n'a pu être menée sur la RN5 alors que des centaines de véhicules et motos étaient bloqués de part et d'autre du pont. Pour rappel, les ponts constitués de conteneurs avaient été jetés provisoirement sur la rivière Sangue par la MONUSCO après les inondations de 2020 en attendant l'intervention de l'office des routes. Le directeur provincial de cet office au sud Kivu, l'ingénieur Anissé Kakesatamukombo, dit attendre toujours les moyens pour relancer les travaux de réhabilitation de toute la route nationale numéro 5 depuis Businga dans les escarpements de Ngomo jusqu'à Lulimba en territoire de Fizi où l'on signale une forte dégradation. D'Uvira, Fiston Momayaba, la Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Quid du rapatriement des soldats et des équipements militaires ukrainiens de la MONUSCO? La question a été posée au commandant adjoint de la force de la mission onusienne en RDC, le général Benoît Tchalana. C'était à la conférence de presse des Nations Unies de mercredi dernier. Le général se trouvait en visioconférence à Goma. Suivez sa réponse.
Nous avons eu, comme vous le savez, une demande du gouvernement qui s'est adressée au siège des Nations Unies à New York pour demander le rapatriement au plus vite des effectifs ukrainiens dans les missions de maintien de la paix. Il se trouve que sur les 300 et quelques Ukrainiens déployés dans les missions de l'ONU, près de 300 le sont à la MONUSCO. Donc c'est la MONUSCO qui est la première concernée par le retrait des Ukrainiens. Les Ukrainiens présents dans la force de la MONUSCO le sont à deux titres. D'abord des officiers qui sont soit des observateurs militaires partis sur le terrain, soit des officiers d'état-major à Goma. Ils sont moins d'une quinzaine. Et il y a d'autre part une unité d'hélicoptères avec un certain nombre d'hélicoptères de transport, 8 très exactement, et tout leur environnement, en termes de soutien, de logistique, bien sûr, pour un effectif de 250 soldats ukrainiens. Comme l'imaginez, le rapatriement n'est pas une chose facile. C'est assez facile pour des personnes individuelles. Ces personnes individuelles que j'ai citées tout à l'heure, qui sont des officiers d'état-major, seront rapatriés, si ce n'est dans leur pays, en tout cas dans la zone, parce qu'on imagine que ça peut être en Pologne, mais je n'en sais rien, il ne m'appartient pas de le savoir ni même d'en juger. En tout cas, ils seront rapatriés courant avril, très probablement à la mi-avril. Quant à l'unité d'hélicoptères, c'est une manœuvre qui prend pas mal de temps, parce qu'il faut d'abord remettre en état les hélicoptères pour leur permettre de rentrer. Il faut probablement les repeindre, il faut aussi et surtout les transporter. Cette manœuvre de transport qui s'est faite à l'aller quand les Ukrainiens ont pris place dans la mission, très probablement avec des moyens aériens ukrainiens qui aujourd'hui ne sont plus disponibles, cette mission de transport va donc être assez compliquée et cette mission de transport ne relève pas de la responsabilité de la MONUSCO aujourd'hui, elle relève de la responsabilité du siège des Nations Unies à New York, qui doit probablement, même certainement, étudier les conditions de cette manœuvre. En termes de délai, les hélicoptères ukrainiens continuent aujourd'hui, ils représentent un peu moins du tiers de la flotte d'hélicoptères dont dispose la MONUSCO. Ils sont toujours en mission aujourd'hui, ils accomplissent une excellente mission, dans un excellent état d'esprit, et ils réalisent parfaitement leur mission. Ils la réaliseront jusqu'au bout, c'est-à-dire très vraisemblablement, jusqu'à la mi-avril, cela reste à confirmer, donc je le dis avec une certaine retenue et une certaine prudence.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capu.
Dans vos agendas pour la semaine qui commence, notez cette visite à Kinshasa de la directrice régionale d'UNIFAM Afrique de l'Ouest et Centrale, une visite qui ira du 28 au 31 mars 2022. Ajoutez aussi cette date, 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site www.radiocapi.net, Radio Capi en un mot. Merci de votre attention et merci également à Alain Goy qui en a assuré la coordination technique. Je suis Babel Pongo-Massimango, j'étais à la présentation de cette émission produite, coordonnée et réalisée par Honoré Missinga Kalala. Restez toujours branchés sur la radio de la paix pour la suite de notre programme. Toute l'équipe du magazine des Nations Unies vous fixe un nouveau rendez-vous dimanche prochain.